Livre 12, deuxième partie. Cependant, les injures imprimées allaient leur train, et leurs bénins auteurs reprochaient aux puissances de me traiter trop doucement. Ce concours d'aboiement, dont les moteurs continuaient d'agir sous le voile, avait quelque chose de sinistre et d'effrayant. Pour moi, je laissais dire sans m'émouvoir. On m'assura qu'il y avait une censure de la Sorbonne. Je n'en crus rien. De quoi pouvait se mêler la Sorbonne dans cette affaire? Voulait-elle assurer que je n'étais pas catholique? Tout le monde le savait. Voulait-on prouver que je n'étais pas bon calviniste? Que lui importait? C'était prendre un soin bien singulier. C'était se faire les substituts de nos ministres. Avant que d'avoir vu cet écrit, je crus qu'on le faisait courir sous le nom de la Sorbonne, pour se moquer d'elle. Je le crus bien plus encore après l'avoir lu. Enfin, quand je ne pus plus douter de son authenticité, tout ce que je me réduisis à croire fut qu'il fallait mettre la Sorbonne aux petites maisons. Un autre écrit m'affecta davantage, parce qu'il venait d'un homme pour qui j'eus toujours de l'estime et dont j'admirais la constance en plaignant son aveuglement. Je parle du mandement de l'archevêque de Paris contre moi. Je crus que je me devais d'y répondre. Je le pouvais sans m'avilir. C'était un cas à peu près semblable à celui du roi de Pologne. Je n'ai jamais aimé les disputes brutales à la Voltaire. Je ne sais me battre qu'avec dignité, et je veux que celui qui m'attaque ne déshonore pas mes coups, pour que je daigne me défendre. Je ne doutais point que ce mandement ne fût de la façon des jésuites, et quoiqu'ils fussent alors malheureux eux-mêmes, j'y reconnaissais toujours leur ancienne maxime d'écraser les malheureux. Je pouvais donc aussi suivre mon ancienne maxime d'honorer l'auteur titulaire et de foudroyer l'ouvrage, et c'est ce que je crois avoir fait, avec assez de succès. Je trouvais le séjour de Mautier fort agréable, et pour me déterminer à y finir mes jours, il ne me manquait qu'une subsistance assurée. Mais on y vit assez chèrement, et j'avais vu renverser tous mes anciens projets par la dissolution de mon ménage, par l'établissement d'un nouveau, par la vente ou dissipation de tous mes meubles et par les dépenses qu'il m'avait fallu faire depuis mon départ de Montmorency. Je voyais diminuer journellement le petit capital que j'avais devant moi. 2 ou 3 ans suffisaient pour en consumer le reste, sans que je visse aucun moyen de le renouveler, à moins de recommencer à faire des livres, métier funeste auquel j'avais déjà renoncé. Persuadé que tout changerait bientôt à mon égard et que le public, revenu de sa frénésie, en ferait rougir les puissances, je ne cherchais qu'à prolonger mes ressources jusqu'à cet heureux changement, qui me laisserait plus en état de choisir parmi celles qui pourraient s'offrir. Pour cela, je repris mon dictionnaire de musique, que 10 ans de travail avaient déjà fort avancé, et auquel il ne manquait que la dernière main et d'être mis au net. Mes livres, qui m'avaient été envoyés depuis peu, me fournirent les moyens d'achever cet ouvrage. Mes papiers, qui me furent envoyés en même temps, me mirent en état de commencer l'entreprise de mes mémoires, dont je voulais uniquement m'occuper désormais. Je commençai par transcrire des lettres dans un recueil qui put guider ma mémoire dans l'ordre des faits et des temps. J'avais déjà fait le triage de celles que je voulais conserver pour cet effet, et la suite, depuis près de 10 ans, n'en était point interrompue. Cependant, en les arrangeant pour les transcrire, j'y trouvai une lacune qui me surprit. Cette lacune était de près de 6 mois, depuis octobre 1756, jusqu'au mois de mars suivant. Je me souvenais parfaitement d'avoir mis dans mon triage nombre de lettres de Diderot, de Delaire, de Madame d'Épinay, de Madame de Chenonceau, etc., qui remplissaient cette lacune et qui ne se trouvèrent plus. Qu'était-elle devenue? Quelqu'un avait-il mis la main sur mes papiers pendant quelques mois qu'ils étaient restés à l'hôtel de Luxembourg? Cela n'était pas concevable, et j'avais vu monsieur le maréchal prendre la clé de la chambre où je les avais déposées. Comme plusieurs lettres de femmes et toutes celles de Diderot étaient sans date, et que j'avais été forcé de remplir ces dates de mémoire et en tâtonnant pour ranger ces lettres dans leur ordre, je crus d'abord avoir fait des erreurs de date, et je passai en revue toutes les lettres qui n'en avaient point ou auxquelles je les avais suppléées, pour voir si je n'y trouverais point celles qui devaient remplir ce vide. Cet essai ne réussit point. Je vis que le vide était bien réel et que les lettres avaient bien certainement été enlevées. Par qui et pourquoi? Voilà ce qui me passait. Ces lettres, antérieures à mes grandes querelles et du temps de ma première ivresse de la Julie, ne pouvaient intéresser personne. C'était tout au plus quelques tracasseries de Diderot, quelques persiflages de Delaire, et des témoignages d'amitié de madame de Chenonceau, et même de madame d'Épinay, avec laquelle j'étais alors le mieux du monde. À qui pouvait importer ces lettres? Qu'en voulait-on faire? Ce n'est que 7 ans après que j'ai soupçonné l'affreux objet de ce vol. Ce déficit bien avéré me fit chercher, parmi mes brouillons, si j'en découvrirais quelque autre. J'en trouvai quelques-uns, qui, vu mon défaut de mémoire, m'en firent supposer d'autres dans la multitude de mes papiers. Ceux que je remarquai furent le brouillon de la morale sensitive et celui de l'extrait des aventures de Milord Édouard. Ce dernier, je l'avoue, me donna des soupçons sur madame de Luxembourg. C'était Laroche, son valet de chambre, qui m'avait expédié ces papiers. Et je n'imaginais qu'elle au monde qui pût prendre intérêt à ce chiffon. Mais quel intérêt pouvait-elle prendre à l'autre, et aux lettres enlevées, dont, même avec de mauvais desseins, on ne pouvait faire aucun usage qui pût me nuire, à moins de les falsifier. Pour monsieur le maréchal, dont je connaissais la droiture invariable et la vérité de son amitié pour moi, je ne pus le soupçonner un moment. Je ne pus même arrêter ce soupçon sur madame la maréchale. Tout ce qui me vint de plus raisonnable à l'esprit, après m'être fatigué longtemps à chercher l'auteur de ce vol, fut de l'imputer à D'Alembert, qui, déjà faufilé chez madame de Luxembourg, avait pu trouver le moyen de fureter ses papiers et d'en enlever ce qu'il lui avait plu, tant en manuscrit qu'en lettres, soit pour chercher à me susciter quelque tracasserie, soit pour s'approprier ce qui lui pouvait convenir. Je supposais qu'abusé par le titre de la morale sensitive, il avait cru trouver le plan d'un vrai traité de matérialisme, dont il aurait tiré contre moi le parti qu'on peut bien s'imaginer. Sûr qu'il serait bientôt détrompé par l'examen du brouillon et déterminé à quitter tout à fait la littérature, je m'inquiétais peu de ces larcins, qui n'étaient pas les premiers de la même main que j'avais endurés sans m'en plaindre. Bientôt, je ne songeais pas plus à cette infidélité que si l'on ne m'en eût fait aucune, et je me mis à rassembler les matériaux qu'on m'avait laissés pour travailler à mes confessions. J'avais longtemps cru qu'à Genève, la compagnie des ministres, ou du moins les citoyens et bourgeois, réclamerait contre l'infraction de l'édit dans le décret porté contre moi. Tout resta tranquille, du moins à l'extérieur. Car il y avait un mécontentement général qui n'attendait qu'une occasion pour se manifester. Mes amis, ou soi-disant elles, m'écrivaient lettre sur lettre pour m'exhorter à venir me mettre à leur tête, m'assurant d'une réparation publique de la part du Conseil. La crainte du désordre et des troubles que ma présence pouvait causer m'empêcha d'acquiescer à leurs instances. Et, fidèle au serment que j'avais fait autrefois de ne jamais tremper dans aucune dissension civile dans mon pays, j'aimais mieux laisser subsister l'offense et me bannir pour jamais de ma patrie que d'y rentrer par des moyens violents et dangereux. Il est vrai que je m'étais attendu, de la part de la bourgeoisie, à des représentations légales et paisibles contre une infraction qui l'intéressait extrêmement. Et il n'y en eut point. Ceux qui la conduisaient cherchaient moins le vrai redressement des griefs que l'occasion de se rendre nécessaire. On cabalait, mais on gardait le silence, et on laissait clabauder les caillettes et les cafards, ou soi-disant elles, que le conseil mettait en avant pour me rendre odieux à la populace et faire attribuer son incartade au zèle de la religion. Après avoir attendu vainement plus d'un an que quelqu'un réclamât contre une procédure illégale, je pris enfin mon parti. Et me voyant abandonné de mes concitoyens, je me déterminai à renoncer à mon ingrate patrie, où je n'avais jamais vécu, dont je n'avais reçu ni bien ni service, et dont, pour prix de l'honneur que j'avais tâché de lui rendre, je me voyais si indignement traité d'un consentement unanime, puisque ceux qui devaient parler n'avaient rien dit. J'écrivis donc au premier syndic de cette année-là, qui, je crois, était M. Favre, une lettre par laquelle j'abdiquais solennellement mon droit de bourgeoisie, et dans laquelle, au reste, j'observais la décence et la modération que j'ai toujours mises aux actes de fierté que la cruauté de mes ennemis m'a souvent arrachée dans mes malheurs. Cette démarche ouvrit enfin les yeux aux citoyens. Sentant qu'ils avaient eu tort, pour leur propre intérêt, d'abandonner ma défense, ils la prirent quand il n'était plus temps. Ils avaient d'autres griefs qu'ils joignirent à celui-là, et ils en firent la matière de plusieurs représentations très bien raisonnées, qu'ils étendirent et renforcèrent, à mesure que les durs et rebutants refus du Conseil, qui se sentaient soutenus par le ministère de France, leur firent mieux sentir le projet formé de les asservir. Ces altercations produisirent diverses brochures qui ne décidaient rien, jusqu'à ce que parurent tout d'un coup les lettres écrites de la campagne, ouvrage écrit en faveur du Conseil avec un art infini, et par lequel le parti représentant, réduit au silence, fut pour un temps écrasé. Cette pièce, monument durable des rares talents de son auteur, était du procureur général Tronchin, homme d'esprit, homme éclairé, très versé dans les lois et le gouvernement de la République. Siluit Terra. Les représentants, revenus de leur premier abattement, entreprirent une réponse et s'en tirèrent passablement avec le temps. Mais tous jetèrent les yeux sur moi, comme le seul qui pût entrer en lice contre un tel adversaire, avec espoir de le terrasser. J'avoue que je pensais de même. Et poussé par mes concitoyens, qui me faisaient un devoir de les aider de ma plume dans un embarras dont j'avais été l'occasion, j'entrepris la réfutation des lettres écrites de la campagne, et j'en parodiai le titre par celui de « Lettres écrites de la montagne » que je mis aux miennes. Je fis et j'exécutai cette entreprise si secrètement que, dans un rendez-vous que j'eus à Thonon avec les chefs des représentants pour parler de leurs affaires et où ils me montrèrent l'esquisse de leur réponse, je ne leur dis pas un mot de la mienne qui était déjà faite, craignant qu'il ne survînt quelque obstacle à l'impression. S'il en parvenait le moindre vent, soit aux magistrats, soit à mes ennemis particuliers. Je n'évitai pourtant pas que cet ouvrage ne fût connu en France avant la publication. Mais on aima mieux le laisser paraître que de me faire trop comprendre comment on avait découvert mon secret. Je dirai là-dessus ce que j'ai su, qui se borne à très peu de choses. Je me tairai sur ce que j'ai conjecturé. J'avais à Moitié presque autant de visites que j'en avais à l'Ermitage et à Montmorency, mais elles étaient la plupart d'une espèce fort différente. Ceux qui m'étaient venus voir jusqu'alors étaient des gens qui, ayant avec moi des rapports de talent, de goût, de maxime, les alléguaient pour cause de leur visite, et me mettais d'abord sur des matières dont je pouvais m'entretenir avec eux. À Moutier, ce n'était plus cela, surtout du côté de France. C'étaient des officiers ou d'autres gens qui n'avaient aucun goût pour la littérature, qui même, pour la plupart, n'avaient jamais lu mes livres, et qui ne laissaient pas, à ce qu'ils disaient, d'avoir fait 30, 40, 60, 100 lieues pour me venir voir et admirer l'homme illustre, célèbre, très célèbre, le grand homme, etc. Car dès lors, on a cessé de me jeter grossièrement à la face les plus impudentes flagorneries, dont l'estime de ceux qui m'abordaient m'avait garanti jusqu'alors. Comme la plupart de ces survenants ne daignaient ni se nommer ni me dire leur état, que leurs connaissances et les miennes ne tombaient pas sur les mêmes objets, et qu'ils n'avaient ni lu ni parcouru mes ouvrages, je ne savais de quoi leur parler. J'attendais qu'ils parlassent eux-mêmes, puisque c'était à eux à savoir et à me dire pourquoi ils me venaient voir. On sent que cela ne faisait pas pour moi des conversations bien intéressantes, quoi qu'elles pussent l'être pour eux, selon ce qu'ils voulaient savoir. Car, comme j'étais sans défiance, je m'exprimais sans réserve sur toutes les questions qu'ils jugeaient à propos de me faire. Et ils s'en retournaient, pour l'ordinaire, aussi savants que moi sur tous les détails de ma situation. J'eus, par exemple, de cette façon, monsieur de Fin, écuyer de la reine et capitaine de cavalerie dans le régiment de la reine, lequel eut la constance de passer plusieurs jours à Moutier, et même de me suivre pédestrement jusqu'à la ferrière, menant son cheval par la bride, sans avoir avec moi d'autres points de réunion, sinon que nous connaissions tous deux Mademoiselle Fell et que nous jouions l'un et l'autre au bilboquet. J'eus, avant et après Monsieur de Fin, une autre visite bien plus extraordinaire. Deux hommes arrivent à pied, conduisant chacun un mulet chargé de son petit bagage, logent à l'auberge, pansent leur mulet eux-mêmes et demandent à me venir voir. À l'équipage de ces muletiers, on les prit pour des contrebandiers. Et la nouvelle courut aussitôt que des contrebandiers venaient me rendre visite. Leur seule façon de m'aborder m'apprit que c'était des gens d'une autre étoffe. Mais, sans être des contrebandiers, ce pouvaient être des aventuriers. Et ce doute me tint quelque temps en garde. Ils ne tardèrent pas à me tranquilliser. L'un était monsieur de Montauban, appelé le comte de la Tour du Pin, gentilhomme du Dauphiné. L'autre était monsieur d'Astier, de Carpentras, ancien militaire, qui avait mis sa croix de Saint-Louis dans sa poche, ne pouvant pas l'étaler. Ces messieurs, tous deux très aimables, avaient tous deux beaucoup d'esprit. Leur conversation était agréable et intéressante. Leur manière de voyager, si bien dans mon goût et si peu dans celui des gentilshommes français, me donna pour eux une sorte d'attachement que leur commerce ne pouvait qu'affermir. Cette connaissance même ne finit pas là, puisqu'elle dure encore, et qu'ils me sont revenus voir diverses fois, non plus à pied cependant, cela était bon pour le début. Mais plus j'ai vu ces messieurs, moins j'ai trouvé de rapport entre leur goût et les miens. Moins j'ai senti que leurs maximes fussent les miennes, que mes écrits leur fussent familiers, qu'il y eût aucune véritable sympathie entre eux et moi. Que me voulaient-ils donc? Pourquoi me venir voir dans cet équipage? Pourquoi rester plusieurs jours? Pourquoi revenir plusieurs fois? Pourquoi désirer si fort de m'avoir pour hôte? Je ne m'avisais pas alors de me faire ces questions. Je me les suis faites quelquefois depuis ce temps-là. Touché de leurs avances, mon cœur se livrait sans raisonner, surtout à monsieur d'Astier, dont l'air plus ouvert me plaisait davantage. Je demeurai même en correspondance avec lui. Et quand je voulus faire imprimer les lettres de la montagne, je songeai à m'adresser à lui pour donner le change à ceux qui attendaient mon paquet sur la route de Hollande. Il m'avait parlé beaucoup, et peut-être à dessein, de la liberté de la presse à Avignon. Il m'avait offert ses soins si j'avais quelque chose à y faire imprimer. Je me prévalus de cette offre et je lui adressai successivement, par la poste, mes premiers cahiers. Après les avoir gardés assez longtemps, il me les renvoya en me marquant qu'aucun libraire n'avait osé s'en charger. Et je fus contraint de revenir à Ré, prenant soin de n'envoyer mes cahiers que l'un après l'autre et de ne lâcher les suivants qu'après avoir eu avis de la réception des premiers. Avant la publication de l'ouvrage, je sus qu'il avait été vu dans les bureaux des ministres, et Deschermy, de Neuchâtel, me parla d'un livre de l'homme de la montagne que D'Holbach lui avait dit être de moi. Je l'assurai, comme il était vrai, n'avoir jamais fait de livre qui eût ce titre. Quand les lettres parurent, il était furieux et m'accusa de mensonge, quoique je ne lui eusse dit que la vérité. Voilà comment j'eus l'assurance que mon manuscrit était connu. Sûr de la fidélité de Ré, je fus forcé de porter ailleurs mes conjectures, et celle à laquelle j'aimais le mieux m'arrêter fut que mes paquets avaient été ouverts à la poste. Une autre connaissance, à peu près du même temps, mais que je fis d'abord seulement par lettre, fut celle d'un monsieur Laliot, de Nîmes, lequel m'écrivit de Paris, pour me prier de lui envoyer mon profil à la silhouette, dont il avait, disait-il, besoin pour mon buste en marbre, qu'il faisait faire par le moine pour le placer dans sa bibliothèque. Si c'était une cajolerie inventée pour m'apprivoiser, elle réussit pleinement. Je jugeai qu'un homme qui voulait avoir mon buste en marbre dans sa bibliothèque était plein de mes ouvrages, par conséquent de mes principes, et qu'il m'aimait, parce que son âme était au ton de la mienne. Il était difficile que cette idée ne me séduisît pas. J'ai vu M. Laliot dans la suite. Je l'ai trouvé très zélé pour me rendre beaucoup de petits services, pour s'entremêler beaucoup dans mes petites affaires. Mais, au reste, je doute qu'aucun de mes écrits ait été du petit nombre des livres qu'il a lus en sa vie. J'ignore s'il a une bibliothèque et si c'est un meuble à son usage. Et quant au buste, il s'est borné à une mauvaise esquisse en terre faite par le moine, sur laquelle il a fait graver un portrait hideux qui ne laisse pas de courir sous mon nom, comme s'il avait avec moi quelque ressemblance. Le seul Français qui parut me venir voir par goût pour mes sentiments et pour mes ouvrages fut un jeune officier du régiment de Limousin, appelé M. Séguier de Saint-Brisson, qu'on a vu et qu'on voit peut-être encore briller à Paris et dans le monde, par des talents assez aimables et par des prétentions au bel esprit. Il m'était venu voir à Montmorency l'hiver qui précéda ma catastrophe. Je lui trouvai une vivacité de sentiment qui me plut. Il m'écrivit dans la suite à moitié, et soit qu'il voulût me cajoler ou que réellement la tête lui tourna de l'Émile, il m'apprit qu'il quittait le service pour vivre indépendant et qu'il apprenait le métier de menuisier. Il avait un frère aîné, capitaine dans le même régiment, pour lequel était toute la prédilection de la mère, qui, dévote outrée et dirigée par je ne sais quel abbé Tartuffe, en usait très mal avec le cadet, qu'elle accusait d'irreligion et même du crime irrémissible d'avoir des liaisons avec moi. Voilà les griefs sur lesquels il voulut rompre avec sa mère et prendre le parti dont je viens de parler. Le tout pour faire le petit Émile. Alarmé de cette pétulance, je me hâtai de lui écrire pour le faire changer de résolution. Et je mis à mes exhortations toute la force dont j'étais capable. Elles furent écoutées. Il rentra dans son devoir vis-à-vis de sa mère, et il retira des mains de son colonel sa démission qu'il lui avait donnée, et dont celui-ci avait eu la prudence de ne faire aucun usage pour lui laisser le temps d'y mieux réfléchir. Saint-Brisson, revenu de ses folies, en fit une un peu moins choquante, mais qui n'était guère plus de mon goût. Ce fut de se faire auteur. Il donna, coup sur coup, deux ou trois brochures, qui n'annonçaient pas un homme sans talent, mais sur lesquelles je n'aurais pas à me reprocher de lui avoir donné des éloges bien encourageants pour poursuivre cette carrière. Quelque temps après, il me vint voir, et nous fîmes ensemble le pèlerinage de l'île de Saint-Pierre. Je le trouvais, dans ce voyage, différent de ce que je l'avais vu à Montmorency. Il avait je ne sais quoi d'affecté, qui d'abord ne me choqua pas beaucoup, mais qui m'est revenu souvent en mémoire depuis ce temps-là. Il me vint voir encore une fois à l'hôtel de Saint-Simon, à mon passage à Paris pour aller en Angleterre. J'appris, là, ce qu'il ne m'avait pas dit, qu'il vivait dans les grandes sociétés et qu'il voyait assez souvent Madame de Luxembourg. Il ne me donna aucun signe de vie attris et ne me fit rien dire par sa parente Mademoiselle Séguier, qui était ma voisine, et qui ne m'a jamais paru bien favorablement disposée pour moi. En un mot, l'engouement de Monsieur de Saint-Brisson finit tout d'un coup, comme la liaison de Monsieur de Fin. Mais celui-ci ne me devait rien, et l'autre me devait quelque chose. À moins que les sottises que je l'avais empêché de faire n'eussent été qu'un jeu de sa part, ce qui, dans le fond, pourrait très bien être. J'eus aussi des visites de Genève, tant des plus. Les deux Luc, père et fils, me choisirent successivement pour leur garde-malade. Le père tomba malade en route, le fils l'était en partant de Genève. Tous deux vinrent se rétablir chez moi. Des ministres, des parents, des cagots, des quidam de toute espèce venaient de Genève et de Suisse, non pas comme ceux de France pour m'admirer et me persifler, mais pour me tenser et catéchiser. Le seul qui me fit plaisir fut Moultou, qui vint passer 3 ou 4 jours avec moi, et que j'y aurais bien voulu retenir davantage. Le plus constant de tous, celui qui s'opiniâtra le plus et qui me subjugua à force d'importunité, fut un monsieur d'Hivernois, commerçant de Genève, français réfugié et parent du procureur général de Neuchâtel. Ce monsieur d'Hivernois de Genève passait à moitié 2 fois l'an, tout exprès pour m'y voir. Restait chez moi du matin au soir, plusieurs jours de suite, se mettait de mes promenades, m'apportait 1000 sortes de petits cadeaux, s'insinuait malgré moi dans ma confidence, se mêlait de toutes mes affaires, sans qu'il y eût entre lui et moi aucune communion d'idées, ni d'inclination, ni de sentiment, ni de connaissance. Je doute qu'il ait lu dans toute sa vie un livre entier d'aucune espèce, et qu'il sache même de quoi traitent les miens. Quand je commençais d'herboriser, il me suivit dans mes courses de botanique, sans goût pour cet amusement, sans avoir rien à me dire, ni moi à lui. Il eut même le courage de passer avec moi 3 jours entiers tête à tête dans un cabaret à Gaumont, d'où j'avais cru le chasser à force de l'ennuyer et de lui faire sentir combien il m'ennuyait. Et tout cela sans qu'il m'ait été possible jamais de rebuter son incroyable constance ni d'en pénétrer le motif. Parmi toutes ces liaisons, que je ne fis et n'entretins que par force, je ne dois pas omettre la seule qui m'ait été agréable et à laquelle j'ai mis un véritable intérêt de cœur. C'est celle d'un jeune Hongrois qui vint se fixer à Neuchâtel et de là à Moitié, quelques mois après que j'y fus établi moi-même. On l'appelait dans le pays le baron de Sauterne, nom sous lequel il avait été recommandé de Zurich. Il était grand et bien fait, d'une figure agréable, d'une société liante et douce. Il dit à tout le monde, et me fit entendre à moi-même, qu'il n'était venu à Neuchâtel qu'à cause de moi, et pour former sa jeunesse à la vertu par mon commerce. Sa physionomie, son ton, ses manières me parurent d'accord avec ses discours, et j'aurais cru manquer à l'un des plus grands devoirs en éconduisant un jeune homme en qui je ne voyais rien que d'aimable, et qui me recherchait par un si respectable motif. Mon cœur ne sait point se livrer à demi. Bientôt, il eut toute mon amitié, toute ma confiance. Nous devînmes inséparables. Il était de toutes mes courses pédestres. Il y prenait goût. Je le menai chez Milord Maréchal, qui lui fit 1000 caresses. Comme il ne pouvait encore s'exprimer en français, il ne me parlait et ne m'écrivait qu'en latin. Je lui répondais en français, et ce mélange des deux langues ne rendait nos entretiens ni moins coulants ni moins vifs à tous égards. Il me parla de sa famille, de ses affaires, de ses aventures, de la cour de Vienne, dont il paraissait bien connaître les détails domestiques. Enfin, pendant près de 2 ans que nous passâmes dans la plus grande intimité, je ne lui trouvais qu'une douceur de caractère à toute épreuve, des mœurs non seulement honnêtes, mais élégantes, une grande propreté sur sa personne, une décence extrême dans tous ses discours. Enfin, toutes les marques d'un homme bien né, qui me le rendirent trop estimable pour ne pas me le rendre cher. Dans le fort de mes liaisons avec lui, Divernois de Genève m'écrivit que je prisse garde au jeune Hongrois qui était venu s'établir auprès de moi, qu'on l'avait assuré que c'était un espion que le ministère de Finances avait auprès de moi. Cet avis pouvait paraître d'autant plus inquiétant que dans le pays où j'étais, tout le monde m'avertissait de me tenir sur mes gardes, qu'on me guettait et qu'on cherchait à m'attirer sur le territoire de France pour m'y faire un mauvais parti. Pour fermer la bouche, une fois pour toutes, à ces ineptes donneurs d'avis, je proposai à Sauterne, sans le prévenir de rien, une promenade pédestre à Pontarlier. Il y consentit. Quand nous fûmes arrivés à Pontarlier, je lui donnai à lire la lettre de Divernois. Et puis, l'embrassant avec ardeur, je lui dis « Sauterne n'a pas besoin que je lui prouve ma confiance, mais le public a besoin que je lui prouve que je la sais bien placée. » Cet embrassement fut bien doux. Ce fut un de ces plaisirs de l'âme que les persécuteurs ne sauraient connaître, ni ôter aux opprimés. Je ne croirais jamais que Sauterne fût un espion, ni qu'il m'ait trahi, mais il m'a trompé. Quand j'épanchais avec lui mon cœur sans réserve, il eut le courage de me fermer constamment le sien et de m'abuser par des mensonges. Il me controuva je ne sais quelle histoire qui me fit juger que sa présence était nécessaire dans son pays. Je l'exhortai de partir au plus vite, il partit. Et quand je le croyais déjà en Hongrie, j'appris qu'il était à Strasbourg. Ce n'était pas la première fois qu'il y avait été. Il y avait jeté du désordre dans un ménage. Le mari, sachant que je le voyais, m'avait écrit. Je n'avais omis aucun soin pour ramener la jeune femme à la vertu et Sauterne à son devoir. Quand je les croyais parfaitement détachés l'un de l'autre, ils s'étaient rapprochés, et le mari même eut la complaisance de reprendre le jeune homme dans sa maison. Dès lors, je n'eus plus rien à dire. J'appris que le prétendu baron m'en avait imposé par un tas de mensonges. Il ne s'appelait point Sauterne, il s'appelait Sauternsheim. À l'égard du titre de baron qu'on lui donnait en Suisse, je ne pouvais le lui reprocher parce qu'il ne l'avait jamais pris. Mais je ne doute pas qu'il ne fût bien gentilhomme. Et Milord Maréchal, qui se connaissait en homme et qui avait été dans son pays, l'a toujours regardé et traité comme tel. Sitôt qu'il fut parti, la servante de l'auberge où il mangeait à moitié se déclara grosse de son fait. C'était une si vilaine salope, et Sauterne, généralement estimé et considéré dans tout le pays par sa conduite et ses mœurs honnêtes, se piquait si fort de propreté que cette imprudence choqua tout le monde. Les plus aimables personnes du pays, qui lui avaient inutilement prodigué leurs agaceries, étaient furieuses. J'étais outré d'indignation. Je fis tous mes efforts pour faire arrêter cet effronté, offrant de payer tous les frais et de cautionner Sauterne. Je lui écrivis, dans la forte persuasion, non seulement que cette grossesse n'était pas de son fait, mais qu'elle était feinte, et que tout cela n'était qu'un jeu joué par ses ennemis et les miens. Je voulais qu'il revînt dans le pays, pour confondre cette coquine et ceux qui la faisaient parler. Je fus surpris de la mollesse de sa réponse. Il écrivit au pasteur, dont la salope était paroissienne, et fit en sorte d'assoupir l'affaire. Ce que voyant, je cessai de m'en mêler. Fort étonné qu'un homme aussi crapuleux eût pu être assez maître de lui-même pour m'en imposer par sa réserve dans la plus intime familiarité. De Strasbourg, Sautersheim fut à Paris chercher fortune et n'y trouva que de la misère. Il m'écrivit en disant son peccavi. Mes entrailles s'émurent au souvenir de notre ancienne amitié. Je lui envoyai quelque argent. L'année suivante, à mon passage à Paris, je le revis à peu près dans le même état, mais grand ami de M. Lalliot, sans que j'aie pu savoir d'où lui venait cette connaissance et si elle était ancienne ou nouvelle. 2 ans après, Sautersheim retourna à Strasbourg d'où il m'écrivit et où il est mort. Voilà l'histoire abrégée de nos liaisons et ce que je sais de ses aventures. Mais en déplorant le sort de ce malheureux jeune homme, je ne cesserai jamais de croire qu'il était bien né et que tout le désordre de sa conduite fut l'effet des situations où il s'est trouvé. Telles furent les acquisitions que je fis à moitié, en fait de liaisons et de connaissances. Qu'il en aurait fallu de pareil pour compenser les cruelles pertes que je fis dans le même temps? La première fut celle de M. de Luxembourg, qui, après avoir été tourmenté longtemps par les médecins, fut enfin leur victime, traité de la goutte, qu'ils ne voulurent point reconnaître, comme d'un mal qu'ils pouvaient guérir. Si l'on doit s'en rapporter là-dessus à la relation que m'en écrivit Laroche, l'homme de confiance de Madame la Maréchale, c'est bien par cet exemple, aussi cruel que mémorable, qu'il faut déplorer les misères de la grandeur. La perte de ce bon seigneur me fut d'autant plus sensible que c'était le seul ami vrai que j'eusse en France, et la douceur de son caractère était telle qu'elle m'avait fait oublier tout à fait son rang, pour m'attacher à lui comme à mon égal. Nos liaisons ne cessèrent point par ma retraite, et il continua de m'écrire comme auparavant. Je crus pourtant remarquer que l'absence, ou mon malheur, avait attiédi son affection. Il est bien difficile qu'un courtisan garde le même attachement pour quelqu'un qu'il sait être dans la disgrâce des puissances. J'ai jugé d'ailleurs que le grand ascendant qu'avait sur lui Madame de Luxembourg ne m'avait pas été favorable, et qu'elle avait profité de mon éloignement pour me nuire dans son esprit. Pour elle, malgré quelques démonstrations affectées et toujours plus rares, elle cacha moins de jour en jour son changement à mon égard. Elle m'écrivit 4 ou 5 fois en Suisse, de temps à autre, après quoi elle ne m'écrivit plus du tout. Et il fallait toute la prévention, toute la confiance, tout l'aveuglement où j'étais encore, pour ne pas voir en elle plus que du refroidissement envers moi. Le libraire Guy, associé de Duchesne, qui, depuis moi, fréquentait beaucoup l'hôtel de Luxembourg, m'écrivit que j'étais sur le testament de M. le Maréchal. Il n'y avait rien là que de très naturel et de très croyable, ainsi je n'en doutais pas. Cela me fit délibérer en moi-même comment je me comporterais sur le legs. Tout bien pesé, je résolus de l'accepter, quel qu'il pût être, et de rendre cet honneur à un honnête homme, qui, dans un rang où l'amitié ne pénètre guère, en avait eu une véritable pour moi. J'ai été dispensé de ce devoir, n'ayant plus entendu parler de ce legs vrai ou faux. Et en vérité, j'aurais été peiné de blesser une des grandes maximes de ma morale en profitant de quelque chose à la mort de quelqu'un qui m'avait été cher. Durant la dernière maladie de notre ami Mussard, le Niepce me proposa de profiter de la sensibilité qu'il marquait à nos soins pour lui insinuer quelques dispositions en notre faveur. « Ah, cher Le Niepce, lui dis-je, ne souillons pas par des idées d'intérêt les tristes mais sacrés devoirs que nous rendons à notre ami mourant. J'espère n'être jamais dans le testament de personne, et jamais du moins dans celui d'aucun de mes amis. » Ce fut à peu près dans ce même temps-ci que Milord Maréchal me parla du sien, de ce qu'il avait dessein d'y faire pour moi, et que je lui fis la réponse dont j'ai parlé dans ma première partie. Ma seconde perte, plus sensible encore et bien plus irréparable, fut celle de la meilleure des femmes et des mères, qui, déjà chargée d'ans et surchargée d'infirmités et de misères, quitta cette vallée de larmes pour passer dans le séjour des bons, où l'aimable souvenir du bien que l'on a fait ici-bas en fait l'éternelle récompense. Allez, âme douce et bienfaisante, auprès des Fénélon, des Bernex, des Catina, et de ceux qui, dans un état plus humble, ont ouvert, comme eux, leur cœur à la charité véritable. Allez goûter le fruit de la vôtre, et préparez à votre élève la place qu'il espère un jour occuper près de vous. Heureuse dans vos infortunes, que le ciel, en les terminant, vous ait épargné le cruel spectacle des siennes. Craignant de contrister son cœur par le récit de mes premiers désastres, je ne lui avais point écrit depuis mon arrivée en Suisse, mais j'écrivis à Monsieur de Conzié pour m'informer d'elle, et ce fut lui qui m'apprit qu'elle avait cessé de soulager ceux qui souffraient et de souffrir elle-même. Bientôt, je cesserai de souffrir aussi. Mais si je croyais ne la pas revoir dans l'autre vie, ma faible imagination se refuserait à l'idée du bonheur parfait que je m'y promets. Ma troisième perte, et la dernière, car depuis lors il ne m'est plus resté d'amis à perdre, fut celle de Milord Maréchal. Il ne mourut pas, mais, las de servir des ingrats, il quitta Neuchâtel, et depuis lors, je ne l'ai pas revu. Il vit et me survivra, je l'espère. Il vit, et grâce à lui, tous mes attachements ne sont pas rompus sur la terre. Il y reste encore un homme digne de mon amitié. Car son vrai prix est encore plus dans celle qu'on sent que dans celle qu'on inspire. Mais j'ai perdu les douceurs que la sienne me prodiguait, et je ne peux plus le mettre qu'au rang de ceux que j'aime encore, mais avec qui je n'ai plus de liaison. Il allait en Angleterre recevoir sa grâce du roi et racheter ses biens jadis confisqués. Nous ne nous séparâmes point sans des projets de réunion qui paraissaient presque aussi doux pour lui que pour moi. Il voulait se fixer à son château de Casehall, près d'Aberdeen, et je devais m'y rendre auprès de lui. Mais ce projet me flattait trop pour que j'en pusse espérer le succès. Il ne resta point en Écosse. Les tendres sollicitations du roi de Prusse le rappelèrent à Berlin, et l'on verra bientôt comment je fus empêché de l'y aller rejoindre. Avant son départ, prévoyant l'orage que l'on commençait à susciter contre moi, il m'envoya de son propre mouvement des lettres de naturalité, qui semblaient être une précaution très sûre pour qu'on ne pût pas me chasser du pays. La communauté de Couvet, dans le Val de Travers, imita l'exemple du gouverneur et me donna des lettres de communier gratuites comme les premières. Ainsi, devenu de tout point citoyen du pays, j'étais à l'abri de toute expulsion légale, même de la part du prince. Mais ce n'a jamais été par des voies légitimes qu'on a pu persécuter celui de tous les hommes qui a toujours le plus respecté les lois. Je ne crois pas devoir compter au nombre des pertes que je fis en ce même temps, celle de l'abbé de Mably. Ayant demeuré chez son frère, j'avais eu quelques liaisons avec lui, mais jamais bien intimes. Et j'ai quelques lieux de croire que ses sentiments à mon égard avaient changé de nature depuis que j'avais acquis plus de célébrité que lui. Mais ce fut à la publication des Lettres de la Montagne que j'eus le premier signe de sa mauvaise volonté pour moi. On fit courir dans Genève une lettre à Madame Saladin, qui lui était attribuée, et dans laquelle il parlait de cet ouvrage comme des clameurs séditieuses d'un démagogue effréné. L'estime que j'avais pour l'abbé de Mablis et le cas que je faisais de ses lumières ne me permirent pas un instant de croire que cette extravagante lettre fût de lui. Je pris là-dessus le parti que m'inspira la franchise. Je lui envoyai une copie de la lettre en l'avertissant qu'on la lui attribuait. Il ne me fit aucune réponse. Ce silence m'étonna. Mais qu'on juge de ma surprise quand madame de Chenonceau me manda que la lettre était réellement de l'abbé et que la mienne l'avait fort embarrassée. Car enfin, quand il aurait eu raison, comment pouvait-il excuser une démarche éclatante et publique, faite de gaieté de cœur, sans obligation, sans nécessité, à l'unique fin d'accabler au plus fort de ses malheurs un homme auquel il avait toujours marqué de la bienveillance et qui n'avait jamais démérité de lui. Quelque temps après, parurent les dialogues de Phocion, où je ne vis qu'une compilation de mes écrits, faite sans retenue et sans honte. Je sentis, à la lecture de ce livre, que l'auteur avait pris son parti à mon égard et que je n'aurais point désormais de pire ennemi. Je crois qu'il ne m'a pardonné ni le contrat social, trop au-dessus de ses forces, ni la paix perpétuelle, et qu'il n'avait paru désirer que je fisse un extrait de l'abbé de Saint-Pierre qu'en supposant que je ne m'en tirerais pas si bien. Plus j'avance dans mes récits, moins j'y puis mettre d'ordre et de suite. L'agitation du reste de ma vie n'a pas laissé aux événements le temps de s'arranger dans ma tête. Ils ont été trop nombreux, trop mêlés, trop désagréables pour pouvoir être narrés sans confusion. La seule impression forte qu'ils m'ont laissée est celle de l'horrible mystère qui couvre leur cause et de l'état déplorable où ils m'ont réduit. Mon récit ne peut plus marcher qu'à l'aventure et selon que les idées me reviendront dans l'esprit. Je me rappelle que, dans le temps dont je parle, tout occupé de mes confessions, j'en parlais très imprudemment à tout le monde, n'imaginant pas même que personne eût intérêt, ni volonté, ni pouvoir, de mettre obstacle à cette entreprise. Et quand je l'aurais cru, je n'en aurais guère été plus discret, par l'impossibilité totale où je suis, par mon naturel, de tenir caché rien de ce que je sens et de ce que je pense. Cette entreprise connue fut, autant que j'en puis juger, la véritable cause de l'orage qu'on excita pour m'expulser de la Suisse et me livrer entre des mains qui m'empêchassent de l'exécuter. J'en avais une autre, qui n'était guère vue de meilleur œil par ceux qui craignaient la première. C'était celle d'une édition générale de mes écrits. Cette édition me paraissait nécessaire pour constater ceux des livres portant mon nom, qui étaient véritablement de moi, et mettre le public en état de les distinguer de ces écrits pseudonymes que mes ennemis me prêtaient pour me discréditer et m'avilir. Outre cela, cette édition était un moyen simple et honnête de m'assurer du pain. Et c'était le seul, puisque, ayant renoncé à faire des livres, mes mémoires ne pouvant paraître de mon vivant, ne gagnant pas un sou d'aucune autre manière, et dépensant toujours, je voyais la fin de mes ressources dans celle du produit de mes derniers écrits. Cette raison m'avait pressé de donner mon dictionnaire de musique encore informe. Il m'avait valu 100 louis comptant et 100 écus de rente viagère. Mais encore devait-on voir bientôt la fin de 100 louis quand on en dépensait annuellement plus de 60. Et 100 écus de rente étaient comme rien pour un homme sur qui les quidams et les gueux venaient incessamment fondre comme des étourneaux. Il se présenta une compagnie de négociants de Neuchâtel pour l'entreprise de mon édition générale, et un imprimeur ou libraire de Lyon, appelé Reguillat, vint, je ne sais comment, se fourrer parmi eux pour la diriger. L'accord se fit sur un pied raisonnable et suffisant pour bien remplir mon objet. J'avais, tant en ouvrages imprimés qu'en pièces encore manuscrites, de quoi fournir 6 volumes in quarto. Je m'engageais de plus à veiller sur l'édition, au moyen de quoi il devait me faire une pension viagère de 1600 livres de France et un présent de 1000 écus une fois payé. Le traité était conclu, non encore signé, quand les lettres écrites de la montagne parurent. La terrible explosion qui se fit contre cet infernal ouvrage et contre son abominable auteur épouvanta la compagnie, et l'entreprise s'évanouit. Je comparerai l'effet de ce dernier ouvrage à celui de la lettre sur la musique française. Si cette lettre, en m'attirant la haine et m'exposant au péril, ne m'eût laissé du moins la considération et l'estime. Mais après ce dernier ouvrage, on parut s'étonner à Genève et à Versailles qu'on laissât respirer un monstre tel que moi. Le petit conseil, excité par le résident de France et dirigé par le procureur général, donna une déclaration sur mon ouvrage, par laquelle, avec les qualifications les plus atroces, il le déclare indigne d'être brûlé par le bourreau, et ajoute, avec une adresse qui tient du burlesque, qu'on ne peut, sans se déshonorer, y répondre, ni même en faire aucune mention. Je voudrais pouvoir transcrire ici cette curieuse pièce, mais malheureusement je ne l'ai pas et ne m'en souviens pas d'un seul mot. Je désire ardemment que quelqu'un de mes lecteurs, animé du zèle de la vérité et de l'équité, veuille relire en entier les lettres écrites de la montagne. Il sentira, j'ose le dire, la stoïque modération qui règne dans cet ouvrage, après les sensibles et cruels outrages dont on venait à l'envi d'accabler l'auteur. Mais, ne pouvant répondre aux injures parce qu'il n'y en avait point, ni aux raisons parce qu'elles étaient sans réponse, ils prirent le parti de paraître trop courroucés pour vouloir répondre. Et il est vrai que s'ils prenaient les arguments invincibles pour des injures, ils devaient se tenir fort injuriés. Les représentants, loin de faire aucune plainte sur cette odieuse déclaration, suivirent la route qu'elle leur traçait, et, au lieu de faire trophée des lettres de la montagne, qu'ils voilèrent pour s'en faire un bouclier, ils eurent la lâcheté de ne rendre ni honneur ni justice à cet écrit fait pour leur défense et à leur sollicitation, ni le citer, ni le nommer, quoiqu'ils en tirassent tacitement tous leurs arguments, et que l'exactitude avec laquelle ils ont suivi le conseil par lequel finit cet ouvrage ait été la seule cause de leur salut et de leur victoire. Ils m'avaient imposé ce devoir, je l'avais rempli, j'avais jusqu'au bout servi la patrie et leur cause. Je les priais d'abandonner la mienne et de ne songer qu'à eux dans leurs démêlés. Ils me prirent au mot et je ne me suis plus mêlé de leurs affaires que pour les exhorter sans cesse à la paix, ne doutant pas que, s'ils s'obstinaient, ils ne fussent écrasés par la France. Cela n'est pas arrivé. J'en comprends la raison. Mais ce n'est pas ici le lieu de la dire.